Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3,
c'est fac.
Ça part ici.
Bonjour à tous et à toutes, bienvenue au nouvel épisode du Popcorn de l'Infini, cinquième épisode de cette troisième saison. On va s'intéresser aujourd'hui à Captain America de Winter Soldier, donc deuxième volet de la trilogie de Captain America. J'ai toujours avec moi David. Comment ça va, David?
Ça va bien, puis comme on a pu voir lors du premier film Captain America, c'est pas l'univers que je connais le plus dans les comics, mettons. Mais ça a été le fun quand même d'explorer un peu cet univers de Captain America moderne, relativement moderne vis-à-vis comme le premier. Là.
Ouais.
Donc, ça a été le fun de découvrir les différences entre le film et les comics, puis aussi le film, carrément, parce que c'est la deuxième fois que je l'écoute, je pense. C'est le film que j'ai comme écouté juste une fois, puis que j'ai plus jamais revisité après. Puis, je me rappelle plus.
Ce qui est bizarre, parce que c'est un des meilleurs, là. On va dire universellement reconnu comme un des meilleurs, là, tu sais, dans le top 10, j'imagine, top 15.
Mais j'ai peut-être une théorie là-dessus, c'est que peut-être j'étais trop jeune.
Ouais, c'est ça, il est moins... je veux pas dire accessible, mais il est plus mature, peut-être, que ceux qu'on a vus à présent.
C'est ça, j'ai pas eu le même feeling en le regardant aujourd'hui que, mettons, quand j'étais jeune, là, quand il est sorti, mettons, parce que j'avais vraiment pas ce feeling-là quand je le regardais la première fois, puis j'avais peut-être en tête que c'était pas mon film préféré, puis c'était... Dans ma tête, peut-être un moins bon film qu'un autre. Puis finalement, j'ai été agréablement surpris. On en reparlera au cours du podcast.
Ben oui, assurément. C'est les frères Anthony et Joe Russo qui pilotent ce nouvel opus. Le premier, c'était Joe Johnson, qui lui aussi était reconnu pour ses films peut-être un peu plus... pas nécessairement familiaux, mais en tout cas, avait un background de films familiaux ou de films, même un petit peu de super-héros. Mais là, les frères Russo, maintenant, évidemment, ils se sont imposés dans le MCU. Hein, c'est eux qui vont faire Endgame, Infinity Wars et le prochain, donc Doomsday. Bon, en tout cas, on ne sait pas si au moment que vous l'écoutez, c'est le prochain, là, mais en tout cas, il n'est pas sorti au moment où on enregistre. C'est aussi... Peut-être un qui a eu le plus d'impact pour la suite du MCU, du moins jusqu'à présent. La question de New York et des Avengers, on est déjà un peu passé ailleurs deuxième volet.
Le retour du SHIELD, là, notamment. Ouais. Vis-à-vis aussi la post-credits, on a un peu une continuité, là, vraiment, on se sépare du premier Avengers.
Oui, vraiment. Puis la plupart du cast revient. C'est le moment, on va pas nécessairement spoiler, mais tu sais, le Winter Soldier qui est Bucky à l'époque. Dans le temps, c'était un gros reveal, là. Peut-être moins pour les fans de comic books parce qu'ils savaient que Winter Soldier, c'était Bucky. Mais pour le grand public en général, tout le monde du premier film sont morts parce que c'est ça. On est en 45 puis là, on est
en rendu. Même temps. Ça faisait pas si longtemps dans les comics qu'on avait découvert là, ça faisait quand même longtemps, mais qu'on avait découvert que Bucky c'était Winter Soldier. Mais dire que quelqu'un qui a arrêté de lire les comics dans les années 2000 à peu près pourrait facilement le manquer. On l'a su en 2004 que Bucky c'était Winter Soldier. En fait, la saga Winter Soldier est sortie en 2004. Fait que quelqu'un qui a écouté qui a lu les comics des années 90 avec les premiers Avengers, tout ça, pourrait facilement avoir été surpris de ce reveal-là. Cependant, c'est sûr que ça l'enlève un peu un effet de surprise aussi. Puis l'absence de Bucky est pas mal moins longue dans les films aussi. Là.
Ouais.
En termes de temps, elle est longue, là, mais je veux dire... Il était là dans le premier, il est là dans le deuxième. T'sais.
Non, c'est ça. On n'a pas attendu un film de buffer entre les deux. Il y a quand même... puisqu'on s'attaque un peu plus au SHIELD, il y a tous les gens du SHIELD qui reviennent. Nick Fury joue un rôle un peu plus prédominant que dans tous les autres films. Quasiment aussi prédominant que dans Avengers. Il y a Scarlett Johansson, donc Black Widow, qui revient également. Un nouveau venu, Anthony Mackie, qui joue Falcon ou Sam Wilson. Lui, évidemment, son rôle va être amené à grandir aussi dans le MCU. Le seul peut-être nouvel ajout, c'est Robert Redford qui joue Alexander Pierce. Je me souviens plus exactement son rôle au sein du SHIELD, là, mais quand même un des hauts placés, on va dire. Et qui... Mon casting n'est pas anodin aussi parce que comme c'est un film qui se veut un peu plus un espèce de thriller d'espionnage, Robert Redford a un grand historique dans sa filmographie de ce type de film-là, notamment Three Days of the Condor, même chose All the President's Men. Donc, il y a des films là, qui remettent en question, on va dire, les institutions et tout ça, ce que le film fait en grande partie ici. Puis, on a aussi Colby Smulders, toi qui es un fan de How I Met Your Mother. Donc, elle revient dans un rôle un peu plus substantiel. Ben, moi, en tout cas, elle a quand même un peu plus de répliques que dans les Avengers. Dans ce film-là. C'est ça, on reprend un peu l'action après les Avengers. On ne sait pas trop combien de temps, là, mais un petit peu après. C'est essentiellement Captain America qui essaie de s'adapter à sa nouvelle vie. Dans les Avengers, il vient tout juste ou presque de se réveiller de sa congélation.
Oui, c'est là, ça. Il passe de guerre à un autre type de guerre, mais c'est quand même une guerre. Puis là, il y a peut-être la fin de la guerre là, qui l'affecte, là.
Oui, effectivement. Puis, il essaie de trouver sa place dans ce monde-là, au sein de S.H.I.E.L.D. également. Un S.H.I.E.L.D. qui voit évoluer d'une mauvaise façon. Après une mission, là, c'était très James Bond comme construction. Là, on commence avec une mission au début qui a moyen rapport là, avec Batroc, notamment GSP, qu'on connaît bien ici. Donc, après cette mission-là, qui, oui, a un impact sur la suite, là, mais tu sais, qui se veut un peu... à part un peu de l'histoire principale, il constate que S.H.I.E.L.D. a des grands plans pour protéger un peu la population, c'est-à-dire de déployer, je ne sais plus combien, là, 3 ou 5 vaisseaux, comme on a vu dans... j'ai oublié leur nom, là, les hélipads, héliports, je ne sais pas trop qu'on a vu dans les Avengers. Ouais. Donc, dans les airs, puis qui vont faire un peu de la surveillance des méchants.
C'est très armé aussi, des gros dispositifs de surveillance là, où est-ce qu'ils peuvent carrément même tirer avant que le terroriste sorte de chez eux.
T'sais? Ouais, exactement. Donc, c'est ça, toute cette question-là de à quel point on veut empiéter sur la liberté individuelle pour le bien commun.
Ça mène aussi la marche vers le troisième Captain America aussi. C'est ça, j'avais un peu oublié un peu le lien entre le deuxième et le troisième. Je peux le refaire. Il est plus clair, mais c'est ça. Ça mène quand même la marche sur le conflit qui va se dérouler dans le troisième.
Ouais, puis là, on apprend essentiellement que S.H.I.E.L.D. a été envahi, mais corrompu par des agents de Hydra qui, tout ce temps, se tairaient dans l'ombre et puis qui reprennent tranquillement le contrôle de S.H.I.E.L.D. Et puis, Captain America et Black Widow vont être un peu persona non grata, donc ils vont être en fuite pour essayer de contrer les plans de Hydra maintenant. C'est ça, un peu de poursuite, espionnage, comme on l'a dit, même des thématiques politiques. On est quand même une dizaine d'années après le 11 septembre, mais on sait que la décennie des années 2000, même 2010, toute la question de l'information, de l'espionnage, en tout cas, le Patriot Act, tout ça, là, ça fait écho assurément aux Américains qui voyaient ce film-là, la surveillance, tout ce que je fais sur le web est surveillé, tout ça. Là, ce qui est encore d'actualité, ce qui a changé peut-être un peu dans sa nature, là, mais qui, ultimement, les principes fondamentaux sont quand même assez actuels aujourd'hui. Puis, c'est vraiment un shift tonal dans le MCU. Même s'il y a de l'humour ici et là, ça reste un film plus mature, plus... c'est ça, qui s'attaque à des questions un peu plus politiques que juste « on a un vilain, on a un gentil, puis il faut que le gentil batte le vilain ». Ce qui fait que, en tout cas, moi, j'en gardais des bons souvenirs. Je l'ai peut-être plus apprécié même, encore une fois, moi aussi, aujourd'hui, même si je l'ai revu une couple de fois depuis sa sortie, ne serait-ce que parce que le film vieillit bien, pour différentes raisons. On va pouvoir en discuter un peu plus tard. Mais c'est ça, le film vieillit très, très bien. Puis, est plus intéressant. Il est très... je pense que si on le regarde sans attention, il a l'air un peu gris, un peu fade. Il a l'air de rien se passer, beaucoup de blabla pour peu de scènes d'action. Mais il y a peut-être une des meilleures scènes d'action, là, je pense, du MCU. C'est la fameuse scène de l'ascenseur qui a été reprise même dans Endgame. Au point, ça montre qu'elle est très très bonne. On va pouvoir en parler après la pause. Toi, tu vas nous parler au retour de cette série-là, du Winter Soldier.
Je me suis plongé dans les comics. Je me suis plongé dans les comics du Captain America de Brubaker, qui est sorti en 2004. C'est comme un renouveau, un genre de, pas un reboot, là, mais comme un renouveau, si on recommence au numéro 1, carrément directement avec le Winter Soldier. Ensuite, je me suis plongé dans Secret Warriors par Hickman, qui est sorti en 2009, qui est un peu le côté Nick Fury, le côté Hydra dans S.H.I.E.L.D. Là. Mm-hmm. Fait que je me suis plongé dans ces deux comics-là pour faire un portrait de la situation puis établir des différences entre les personnages, parce qu'il y en a, mais somme toute, je vais vous expliquer les détails après la pause.
Ouais, exactement. Donc, vous êtes toujours à l'écoute du Popcorn de l'Infini. On revient dans quelques instants. Vous êtes de retour au Popcorn de l'Infini. Aujourd'hui, on s'intéresse au film Captain America The Winter Soldier, donc deuxième volet de la trilogie de Captain America. David, tu nous mentionnais un peu les comics duquel ce film-là est tiré. D'entrée de jeu, est-ce que c'est fidèle? J'ai l'impression que plus on avance dans le MCU, et plus moins la fidélité va être importante, parce qu'on est en train de construire un peu son propre univers.
En fait, oui. Oui, mais on prend plutôt plusieurs éléments de différents... On va mixer plusieurs éléments ensemble, parce qu'un arc de comics passé pour faire un film, on va en chercher plusieurs.
Puis surtout que la plupart des franchises, là, on visait toute la trilogie. Là. Finalement, il y a Thor qui ont fait 4 films, là, mais la plupart des franchises, ils ont 3 films pour explorer l'univers, puis les Avengers, pour peut-être l'approfondir ici et là. Mais ça reste, il faut choisir les bonnes storylines, puis faire des choix.
Mais c'est ça, on s'est somme toute concentré sur des storylines récentes, je dirais post-2000, ce qui fait bien avec le ton du film aussi, là. Ouais. Ce qui fait un peu de sens de ce côté-là. C'est sûr qu'on a été chercher certaines facettes des années 70, d'autres des années 60.
Okay.
Au niveau du surtout en 74, post-Watergate, la paranoïa un peu qu'il y avait là. Fait qu'on s'est inspiré un peu de ceux-là. Mais généralement, on va rester centré sur le Captain America de Brubaker de 2004 pour ce qui est du Winter Soldier. Puis ensuite, on va aller chercher beaucoup pigé dans Secret Warriors de Hickman en 2009, où est-ce qu'on apprend là, que Hydra a toujours été dans S.H.I.E.L.D. Donc, c'est deux choses séparées. C'est deux storylines séparées qu'on a comme mis ensemble.
C'est quand même assez récent, c'est 2009.
Oui, 2009. Oui, quand même.
Comment ça a été écrit, quoi, 2-3 ans avant qu'il sorte, là? Dans le cas du MCU.
Il y a encore, plus récent que ça. T'sais, comme le film est sorti en 2014, puis... Il y a une certaine référence à la NSA, puis Edward, l'histoire avec Edward Snowden, qui était en 2013. Fait que on a modifié le film à la dernière minute un peu. Bon, sans nécessairement y faire référence, pas tant que ça, quand même.
C'était dans l'air du temps, on va dire.
Oui, c'est ça. C'était vraiment dans l'air du temps. Le film est sorti au bon moment. Bon, commençons avec le Captain America de Brubaker. Ben là, c'est là qu'on va introduire le Winter Soldier. En fait, Captain America, Steve Rogers, va retrouver un peu sur sa table. Des documents qui expliquent qu'est-ce qui s'est passé avec le Winter Soldier, qui toutes les expérimentations sur le Winter Soldier. Puis, ça va être...
Peut-être contextualiser aussi, le Winter Soldier, c'est comme un super héros, un super vilain, mais en tout cas...
C'est ça, un agent.
Un agent d'Hydra, en tout cas, qu'on devine le soviétique.
C'est ça. Ben, là, au niveau des comics, ça va être plus évidemment soviétique. Il n'y aura pas le côté Hydra là-dedans. Ça commence tout simplement avec la mort du Crâne Rouge, la série de comics. Puis, ça va être le méchant, ça va être un général russe, Alexander Lukin, qui va... essayer d'être un vilain parce qu'il détient le Cosmic Cube. Donc, on a comme le Tesseract dans le film. On a comme repris un peu la suite du premier film au niveau du Tesseract, mais là, le Cosmic Cube a carrément été effacé du film. Puis, il va se servir du Cosmic Cube pour faire le mal. on devine très bien. Puis, éventuellement, Captain America va sauver Bucky, puis tout va bien finir.
Ouais.
Mais reste qu'au niveau de Bucky puis de son passé, ça reste quand même semblable, mis à part le fait qu'on n'explique pas trop il vient d'où, puis il a été récupéré par qui. On l'explique un peu, mais pas tant que ça. On a carrément effacé aussi le vilain de cette storyline-là, qui est Alexander Lukin. Et aussi, on apprend le crâne rouge qui avait comme été... Mm-hmm. Il était comme ils sont les deux dans le même corps. Là. On n'expliquera pas plus que ça.
Le crâne rouge est à peu près décédé là, dans le MCU, même si on le retrouve.
Oui, on le retrouve un peu plus tard.
On le voit même un petit peu ce film-là.
J'avais mentionné aussi que comme dans le premier épisode de Captain America que je trouvais ça dommage parce que c'est un vilain qui est récurrent. Puis justement, ça l'a peut-être évité. Ça aurait été un bon punch d'avoir le crâne rouge qui meurt au début du film. Ça aurait pu avoir un bon punch, mais bon, on n'a pas été de ce côté-là. On s'est plutôt inspiré pour le vilain de Secret Warriors de Hickman, où est-ce que Nick Fury apprend que Hydra a toujours été dans S.H.I.E.L.D. Qui a travaillé pour les mauvaises personnes. Fait que c'est un peu... On part de ça, mais t'sais, on s'en détache un peu. C'est pas les mêmes. Il n'y a pas le Project Insight de ce côté-là. Le Project Insight, c'est un ajout pour le film. Mais c'est ça.
Un ajout carrément. Là. C'est vraiment. Il est dans aucun autre comic, c'est ça?
Ouais, pas dans ce que j'ai vu. Non, okay, non, c'est ça. Ça. Ouais. Le Project Insight qui a vraiment comme été créé pour le film directement.
Okay.
Fait que c'est ça.
On réécrit l'histoire.
Ouais. Bon.
Project Insight là, qui est cette volonté-là là, d'éradiquer le crime avant qu'il arrive. Là.
Ouais.
Ce qui est un concept assez commun dans les films de science-fiction aussi, le rapport minoritaire, là, début des années 2000, c'est un peu ça le principe. C'est toujours cette éternelle question-là. Là, de jusqu'où on empiète sur la liberté individuelle pour pouvoir justement avorter un crime, ce qui va à l'encontre de la présomption d'innocence.
Mais ce qui va aussi mettre la table pour le Civil War dans le film, qui va être aussi sur un différent enjeu que dans les comics, mais quand même semblable de ce côté-là. Au niveau de Bucky, ben tu sais, dans les comics, mettons, c'est un adolescent quand durant la Première Guerre mondiale. Puis dans le film, là, ils ont pas mal le même âge, ça c'était déjà mentionné dans le premier film, mais ce qu'on peut comprendre, puis je sais pas si ça a été bien expliqué dans le film ou pas, je l'ai pas compris tant que ça, pourquoi Bucky a encore le même âge. Là.
Ils l'ont cryonisé.
Ouais, c'est ça. Ben, c'est entre ses missions. Généralement, il va être congelé dans le fond.
Okay.
Il va être congelé entre ses missions.
Fait que j'avais pas l'impression que c'était ça dans le film. J'avais l'impression qu'ils l'ont comme ramassé lorsqu'il meurt.
Ouais. C'est ce que je trouve qu'ils ont comme mal expliqué.
Ouais.
Ce que dans le film, ça pourrait être le cas. Là, honnêtement, je sais pas, ils l'ont pas bien expliqué, mais dans les comics, ça va être carrément le Winter Soldier va avoir opéré durant plusieurs années, là, depuis les années 70. Depuis les années 60, il va avoir opéré, puis entre ses missions, il va être congelé.
Et ben, peut-être qu'on nous met un peu la puce à l'oreille à un certain moment vers la fin du film, tu sais, là où ils se posent des questions sur Captain America, ils font comme on va te resetter, puis là, ils font une espèce de brainwash, puis ils repartent à neuf. T'sais, on pourrait comprendre que c'est pas la première fois que.
Non,
que
mais
ça
c'est ça, c'est pas la première fois. Puis dans les comics aussi, il y a plusieurs instances que quand il opérait sur le sol américain, ben là, finalement, il rentrait pas de ses missions ou des choses qui se passaient. Fait qu'il va avoir comme. Ils vont instaurer des mesures comme le brainwash automatique, tout ça. Fait que ça sonne un peu semblable. C'est juste que c'est pas mal plus clair dans les comics que c'est un agent qui a été utilisé au fil des années.
Ouais.
Puis que. On sait aussi que Bucky est encore là-dedans. Mais la fin de, mettons, de sa manipulation du cerveau pour cet arc-là, là, parce que éventuellement ça va revenir, c'est carrément Captain America prend le Cosmic Cube et dit ben, parce que le Cosmic Cube peut faire tout ce que tu veux. Fait que va faire, ben, Bucky se rappelle de lui-même. Ce que j'ai trouvé mieux dans le film, c'est que ça soit pas comme ça.
Ouais, c'est très simple.
C'est très simple.
T'as cette finale-là où t'as la finale où tout n'était qu'un rêve.
Ouais, c'est ça. Fait que ça, c'est ce qui m'avait déçu du côté des comics. Mais bon, on n'a pas cette finale-là, heureusement, dans le film, parce que le Tesseract n'est pas entre les mains de Captain America, il est en main de Hydra.
Ouais.
Au niveau de Black Widow, ben, elle a d'affaires dans le film du Winter Soldier, simplement parce que ben, dans les comics, il y a une relation amoureuse entre le Winter Soldier et Black Widow.
Ce qu'on essaie de faire dans le MCU sans le faire vraiment, là,
ouais.
Tu comprends, ben, on dirait que ça, c'est peut-être... Je pense pas que c'est très positif nécessairement, mais on dirait qu'on essaie de la faire, la love interest de bien des gens. Là, dans Avengers, ouais. On dirait que c'est celle de Bruce Banner quasiment. Là, ici, c'est Captain America. On ne l'a pas vraiment essayé avec Tony Stark, là, mais parce qu'il est avec Pepper Potts. Là,
au niveau de la Red Room, c'est là qu'ils vont comme avoir un peu une histoire partagée. Là.
Okay.
Puis la balle dans le ventre de Black Widow, c'est une référence à un comic qui explique. C'est comme un clin d'œil à ceux qui lisent les comics de pour ça, mais sinon, il n'y a pas d'autres clin d'œil au niveau du passé romantique dans les comics qu'il y avait. Au niveau de Sam Wilson, c'est ça. Là, c'est un personnage que ça fait longtemps qu'il est là. Ça fait longtemps qu'il est là dans les comics, puis il y a eu un retcon en 2014 sur son personnage qui est arrivé juste à temps.
Ah ouais.
Parce que c'était très controversé ce qui s'était passé en 1975. Sam Wilson va être révélé comme Snap Wilson, un gangster dont le Red Skull va avoir réécrit la mémoire avec le cube cosmique.
Okay.
Puis ça a été vu comme un... Ça a été mal vu. Ça a été vu comme un stéréotype raciste maladroit, là, un peu, le
ouais.
gangster.
Ouais,
carrément. Fait que ça a été re-retconné en 2014 avec... puis c'était la résolution que c'était des faux souvenirs qui étaient implantés par le Red Skull pour discréditer Sam. Ce qui fait que, ben là, ils ont pu finalement l'introduire dans le film sans son passé des comics, puis le retourner à un personnage plus moins stéréotypé. C'est ça. Ses ailes aussi, dans les comics, ont été fournies par Black Panther. Ce qui n'est pas mentionné non plus.
Non, il n'existait pas. Je ne sais même pas s'il était dans les plans de Black Panther, dans les plans du MCU à ce moment-là.
Puis, tu sais, c'est aussi Sam Wilson est supposé avoir un lien télépathique avec un vrai faucon.
Ah oui.
Ce qui n'est pas du tout mentionné dans le film.
C'est
une vraiment...
valeur. Ouais. Comme dans Assassin's Creed.
Ben non, c'est ça. C'est beaucoup. Tu sais, c'est la technologie qui a été wakandaise. C'est ça.
Ouais.
Il s'est relié à un vrai faucon. Mais ce qu'on n'a pas dans le film, on n'a pas inclus dans le film, on a plutôt présenté comme un vétéran de l'Air Force. Alexander Pierce, ça, c'est une grosse différence. Puis ça, c'est ce qui aurait pu... Il y a toujours un facteur, même quand on se dit les lecteurs de comics s'attendent à le résultat d'un film, ben, il y a toujours un facteur que tu fais comme non. Parce que il va quand même surprendre même les lecteurs les plus avides de comics, parce que dans les comics, Alexander Pierce, c'est pas un méchant. C'est un membre des Secret Warriors. C'est pas quelqu'un de Hydra. C'est vraiment... c'est un jeune agent du S.H.I.E.L.D. C'est ça. Fait qu'ils l'ont comme changé pour le film. Il est moins jeune, mais quand même... Le nom vient des comics, mais c'est juste pas un méchant. Fait que c'était ça, c'était la partie pour surprendre, je pense, les lecteurs de comics. Aussi qu'ils font comme un peu passer comme un gentil pendant comme une trentaine de secondes. C'était un peu ce clin d'œil-là pour surprendre. Sharon Carter, qu'on sait pas encore que c'est Sharon Carter, dans les comics, c'était au départ la sœur de Peggy. Puis là, c'est la petite nièce, parce qu'il y avait comme un problème générationnel.
Peggy Carter, on la voit un peu dans le film. Peut-être pas mourante, mais elle commence à perdre la mémoire et tout ça, là, très âgée. Ça m'étonne qu'elle soit encore vivante. C'est plus, pas du fanservice, là, mais c'est plus pour, on va dire, entretenir son premier amour à Steve Rogers. C'est un mécanisme scénaristique plus qu'autre chose. Là. Même si on va approfondir finalement son histoire bientôt, là, dans une série là, qui sort en 2015, fait que l'année suivante.
Non, c'est ça, mais au départ, c'était pas mal la sœur. Dans les comics, c'est un love interest là, de Steve Rogers. Nick Fury,
oui.
Là, ben, Il y a des différences, mais là, pour ce film-là, on s'est vraiment basé sur le Nick Fury de Secret Warriors.
Donc, le nouveau Nick Fury qui ressemblait à...
Non, c'est ça. C'est pas le Nick Fury Ultimate. Personnalité reste le même Nick Fury parce que c'est le même personnage. Mais on reste dans le 616 pour ce film-là, ce qui fait qu'on a comme... C'est pas basé sur le même personnage... pas en tout, mais reste que la personnalité est restée semblable depuis l'arrivée du nouveau. C'est un peu calqué au nouveau, mais bref, c'est moins son côté agent plus vétéran dans Secret Warriors. Fait que c'est ça. Ça faisait le tour des personnages.
Fait qu'en gros, on reprend quand même une storyline bien établie. Oui, on ajoute, on va dire, la paranoïa politique peut-être un peu plus. C'est ça. T'sais, on reste... Tu sais, on n'a pas essayé d'étendre nécessairement tant que ça l'univers par rapport au... je dirais pas au premier, là, parce que c'est un univers complètement différent, mais par rapport, on va dire, à Avengers. Là. Fait que tu sais, on est quand même dans des lieux communs, même le vilain finalement, c'est quelqu'un qu'on connaît. Là. Fait que, t'sais, c'est ça reste très dans la famille.
Là, ça n'étend pas tant l'univers que ça, mais ça fait des bons reveals quand même au niveau du Shield.
Ouais, ben c'est ça, c'est que ça va beaucoup l'impacter, en fait, parce que là, le Shield, maintenant, il existe, ben pas qu'il n'existe plus, là, mais c'est ça, il s'est rendu du côté des méchants, puis ça va l'être quand même un bon bout. Ça va affecter, je sais pas s'il y avait jasé au scénariste de Agent of S.H.I.E.L.D. avant de faire ça, là, mais en tout cas, ça impacte quand même pas mal cette storyline-là.
Ce qu'on comprend, c'est qu'Hydra était assez prominente dans le S.H.I.E.L.D. Là. C'était pas juste une petite faction, là. C'était carrément... une bonne partie du S.H.I.E.L.D., puis ça a influencé une bonne partie des actions du S.H.I.E.L.D., puis c'était haut placé aussi. Fait que, tu sais, c'est dur de revenir de ça.
Là. Non, c'est ça.
C'est dur de revenir de ça, mais c'est ça. C'est, le projet de Sag, c'est vraiment comme calqué... C'est vraiment comme une... ça a été rajouté dans le film pour calquer un peu la NSA des États-Unis à l'époque, parce que, ben avec la sortie de Snowden en 2013, c'était très d'actualité. Justement, puis là, ils l'ont comme poussé à l'extrême là, avec les vaisseaux, mais c'est un peu un calque de la surveillance de masse là, que la NSA faisait, ben fait peut-être encore.
Oui, sûrement.
qui était dénoncé
par Snowden. Si vous allez d'un truck stop là, puis qu'il y a du Wi-Fi, probablement que vos données ont été volées au passage.
Je sais pas, là.
Oui, c'est ça. Donc, on peut parler de notre appréciation du film. Tu sais, moi, d'entrée de jeu, ce que j'aime avec ce film-là, c'est d'un côté que il y a... C'est un des films peut-être qui impacte le plus le MCU par la suite. Moi, je reproche beaucoup aux trilogies du MCU d'en faire trois aventures distinctes. Puis, tu sais, à la fin du film, on a comme reseté un peu. Tu sais, le méchant est mort ou il est emprisonné. Puis, on va passer dans une autre aventure. Tu sais, ce que, mettons, la trilogie de Sam Raimi, tu sens une certaine évolution pensée en trois films. Même chose pour les X-Men. Il y a vraiment. Les X-Men, c'est peut-être le meilleur exemple là, que chaque film vraiment va influencer le précédent. Le prochain.
Ça met vraiment la table pour Civil War.
Ben c'est ça, sans qu'on le sache, parce qu'il n'était pas annoncé évidemment au départ. Là. Mais c'est ça, ça met la table, mais ça va vraiment l'impacter de ce côté-là. Puis ça va même l'impacter, j'ai l'impression, puis là c'est mon analyse à deux cents, dans peut-être de vouloir brander des super-héros avec un genre cinématographique. Tu sais, Iron Man, ça restait de l'action. Avengers, ça restait de l'action. Thor, bon, ça peut être plus fantastique, si on veut, là, ou science-fiction. Mais après ça, j'ai l'impression que chaque super-héros va avoir un peu sa niche tonale, on va dire ça comme ça. Tu sais, Captain America va rester des films, justement, un peu plus d'espionnage avec le troisième.
Ouais, thriller politique. Puis
Ant-Man va être plus comique, même heist movie un petit peu. Mm-hmm. Spider-Man, ça va être des coming of age. Tu sais, on dirait qu'on va rattacher. Puis c'est le premier film du MCU, je trouve, qu'il y a vraiment pas le même ton que les autres. Même si il y a quand même des parallèles à faire. Fait que pour ça, je trouve ça quand même assez intéressant. Puis ça a montré, j'imagine, parce que le film a eu un succès critique et commercial, ça a montré que le public, c'est ça, était prêt. Souhaitait justement pas juste un gros bloc uniforme, puis tu veux un épisode de plus dans le MCU. Non, c'est comme, on veut... Puis ça a peut-être aussi scindé, je pense, le public. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont vraiment pas intéressés par des trailers d'espionnage puis qui veulent plus les films d'action. Fait que, tu sais, il y a peut-être juste les die-hard fans qui vont voir tous les films. Mais Monsieur, Madame, tout le monde, je pense, OK, Ant-Man, moi, j'aime bien comédie. Ah, c'est drôle, mais OK, je vais regarder ceux-là. Mm. Moi, je sais que mon père, il est comme ça. Mon père a jamais vu aucun des Captain America parce qu'il disait, ben, il a vu le premier puis il l'a pas aimé. Fait qu'il a pas écouté aucun des autres. Mais, tu sais, Gardien de la Galaxie, tout ce qui est fantastique, tout ce qui est science-fiction, il embarque vraiment là-dedans. Fait que, comme. C'est ça, ça a peut-être scindé un peu le public.
Aussi, mais... aussi l'âge, là, que je veux dire.
Ouais.
Moi, j'ai écouté ça, je sais pas j'avais quel âge, j'avais quelqu'un quand c'est sorti, puis c'est pas venu me rejoindre, là. Mm-hmm. C'est pas venu me rejoindre, même si j'aimais beaucoup les super-héros, même si j'aimais. C'est juste pas venu me rejoindre, fait que j'ai pas écouté le deuxième. Tu sais, c'est, ben, ouais. Je l'ai écouté, mais j'en ai pas gardé un souvenir.
Non,
puis là, plus tard, en ayant vieilli, mais là, j'aime beaucoup les trailers politiques, puis. Mm-hmm. Ça donne que ça en ait un. Fait, j'ai pu redécouvrir un peu ce film-là pour ce qu'il est, mais c'est pas venu me chercher quand j'étais plus jeune.
Non, c'est ça. Encore au niveau du positif, je trouve, tu sais, moi, c'est souvent un reproche que je fais à tous les films de super-héros, c'est que le vilain est pas très intéressant, puis que c'est épisodique. Puis là, ben, le vilain est un peu plus intéressant. Tu sais, je suis pas prêt à dire que Winter Soldier, de la façon dont ils nous l'ont montré, qui est un vilain si intéressant que ça. Puis encore moins Robert Redford, là, parce qu'il a 70 ans. Là. Il ne se mettra pas à se battre avec du monde. mais tu sais, c'est que dans les films, souvent, c'est comme, OK, comment est-ce que le vilain peut battre le méchant? Mais là, c'est pas ça. C'est comment est-ce que... Bon, j'ai dit le vilain peut battre le méchant. Comment est-ce que le gentil peut battre le méchant? Là, c'est... OK, comment... Ben, la thématique centrale, c'est est-ce qu'on peut faire confiance à l'autorité?
Mm.
Puis après ça, c'est... OK, je veux pas battre le vilain, je veux essayer de retrouver mon ami ou en tout cas essayer de sauver le vilain de sa situation parce qu'on comprend qu'il y a anguille sous roche. Là, Captain America, il sait pas comment il s'est ramassé là nécessairement, le Winter Soldier. Fait que tu sais, je trouvais déjà que c'était plus intéressant. Après ça, effectivement, je trouve au niveau de l'exécution, des fois, c'est un peu... Il y a des longs stretches de blabla puis l'action arrive. Tu sais, l'action, déjà, qu'elle est moins spectaculaire que dans les autres films, ça veut pas dire qu'elle est moins bonne, mais moins spectaculaire.
Pourtant, je l'ai quand même aimé, c'est plus...
Je l'ai aimé, mais ouais. Pas spectaculaire. Tu sais, c'est-à-dire, il y a pas des tours qui explosent
non.
Ou des affaires de même, un peu plus vers la fin, là.
Une affaire, c'est que les trois fights avec le Winter Soldier, les trois combats,
ouais.
J'ai un mélange en ma tête.
Ben c'est ça, ils sont tous pareils, tu sais, ils sont sur une route, puis là, il y a des chars qui explosent, puis il y a lui qui pop à un moment donné, puis c'est ça, tu sais, c'est pour ça, c'est pas spectaculaire, mais moi, je reproche beaucoup au MCU son utilisation abusive du CGI. Mm-hmm. Ici, on sent que c'est en prise de vue réelle, quand même pas mal, ce qui fait que c'est par nature moins spectaculaire. Tu peux pas faire effondrer un building en prise de vue réelle, mais c'est ça, tu sais, ils sont allés vraiment plus, tu sais, fist fight, là, essentiellement, tu sais, combat au couteau, tu sais, oui, il y a des armes, mais ils sont moins utilisés. Fait que moi, ça m'a plu dans cette approche-là, mais je comprends que c'est plus banal, on va dire. Là. Puis c'est pas du calibre non plus de John Wick, là, que comme c'est des vraies chorégraphies, qui est vraiment cool, puis tout. T'sais, tu sens quand même qu'il y a des tricks de montage pour rendre ça plus dynamique. Mais c'est ça. Le downside d'avoir fait un film plus sérieux, c'est que c'est plus sérieux. c'est plus intense, peut-être un peu moins d'humour. Toi, qu'est-ce que tu as aimé, peut-être, de ce film-là?
C'est justement le côté thriller politique. Il m'a intéressé beaucoup. Le côté un peu... À un moment donné, ça devient des fugitifs. Là, aussi, moi, je pense que la scène qui m'a le plus marqué, je pense que c'est la scène où est-ce que Nick Fury se fait encercler par des polices. Là.
Ouais. Avec l'espèce de bélier pour son char.
Ouais,
c'est dans
ça.
Celle-là. Là. Ouais. c'est quand même. C'est un peu weird. Là. Je comprends pas trop son char mécanique, son char avec du AI ou je sais pas trop.
Ouais,
il y a des affaires qui se peuvent pas trop.
Il y a clairement de la technologie de Stark là-dedans. Puis justement, parlant de Stark, je m'attendais. Hein, puis je suis content qu'il ne l'ait pas fait, mais je m'attendais, mettons. Quand je l'écoutais la première fois, je m'entendais que Iron Man débarque.
Ouais,
c'est quand il y a un caméo. Puis il n'y en a pas eu. Puis je suis quand même content parce qu'éventuellement, là, il va y avoir juste ça, des caméos là, dans les films Marvel.
Ben, déjà, Captain America avait fait un caméo dans Thor 2.
Ouais, mais c'est le genre de caméo qui est un vrai caméo. Là,
ouais,
plutôt,
ouais, ouais.
comme tu dirais. Là, mais tu sais, c'est... Non, pour vrai, je m'attendais à ce qu'il débarque. Parce que, puis dans les comics aussi, Iron Man va débarquer souvent dans les comics de Captain America, c'est juste normal. Puis là, ben ils l'ont pas fait. Fait que j'ai trouvé ça quand même le fun, parce que là, ça a rajouté comme une dimension qu'on n'a peut-être pas besoin, là, qu'on va peut-être retrouver dans Civil War plutôt. Là.
J'aime ça qu'on donne un peu, ben là, ça change un peu le portrait, mais tu sais, qu'on donne ces personnages-là qui se promènent de film en film à des personnages secondaires. Là, oui, Romanoff a un rôle un peu plus important là-dedans, mais tu sais, elle était dans Iron Man aussi.
Ouais.
Là, elle était dans Avengers. Hawkeye aussi se promène un peu dans Thor, des affaires de même. Là, depuis, ils ont eu leur film ou série chacun. Là. Mais tu sais, j'aime ça qu'on laisse ça. Moi aussi, ça me tente pas. Puis tu sais, Civil War, c'est le pire exemple parce que là, tout le monde débarque. mais en dehors de ça, tu sais, effectivement, les mash-ups Thor puis Hulk, ou même si dans les comics, c'est ça pareil, tu sais, ça donne moins l'impression de faire une franchise sur un personnage, puis plus l'impression d'être la continuation des Avengers ou du MCU.
Ouais, mais c'est ça, mais dans les comics, tu sais, il va peut-être débarquer une fois dans l'arc, mais pas comme l'entièreté de l'arc non plus, là, mais dépendant de l'arc, bien sûr. Mais tu sais, c'est pas parce que c'est normal qu'Iron Man débarque dans les comics des Captain America qu'il faut le faire à chaque film.
Non, c'est ça. T'sais. Sinon, au niveau des scènes d'action, toi, comment t'as trouvé ça? Toi, je sais que t'aimes que ce soit. Ben, je sais pas. T'aimes ça quand...
Mais je suis un fan du CGI, on se le cache
ouais,
pas.
Ça.
Mais.
Je ne pas le dire.
Non, mais pour vrai, puis je suis un fan aussi de scènes d'action plus espion, plus fist fight aussi. La scène de l'ascenseur est spectaculaire aussi.
Ouais.
Pour vrai, j'ai pas manqué de scènes d'action. Puis je pense que, oui, il y a eu du blabla, mais pas trop à mon goût, puis je suis pas resté en... quand j'étais plus jeune, peut-être, là, j'étais resté avec une fin de scène d'action, là.
Mm-hmm.
Mais pour lors de ma réécoute, j'ai pas manqué, je me suis pas endormi, là, c'était pas... t'sais.
Ouais.
Je l'ai écouté, puis j'étais collé à mon écran, puis la seule affaire, puis ça, c'est le fun là, que j'ai pensé ça, la seule affaire, c'est quand le film est fini, j'avais le goût qui continue, t'sais. Mm-hmm. Ça, c'était vraiment... Le signe que c'est un bon film pour moi et que je l'ai vraiment apprécié.
Mm-hmm. Tu sais, il y a quand même certaines incohérences. J'ai l'impression, puis tu sais, on dirait que Captain America pourra jamais vraiment s'en sauver parce qu'on a fait en sorte que les années 40, qui viennent des années 40, puis que là maintenant il est dans le présent. Là. Mais tu sais, j'avoue que j'ai quand même un peu de difficulté à croire que Hydra se serait caché aussi longtemps au sein de S.H.I.E.L.D. Là, t'sais. Puis là, on essaie de nous vendre dans le film que on a été la cause de plusieurs conflits mondiaux. Puis là, ils montrent des extraits de je sais pas trop quoi, là, j'imagine le Vietnam ou la guerre du Golfe ou des trucs comme ça. On dirait que j'ai de la misère à voir que c'est avec Pierce ou que c'est à ce moment-là que comme ils vont un peu asseoir leur pouvoir. En tout cas, tu sais, ils essaient de nous vendre comme on a voulu créer le chaos pendant 70 ans pour que finalement on puisse contrôler le monde puis les faire switcher, de comme leur faire perdre leur liberté pour que nous on empiète là-dessus. J'ai l'impression, tu sais, on s'entend, les méchants c'est souvent des narcissiques, là. C'est des gens qui veulent que les choses se passent vite puis qu'il se passe, que ce soit eux qui les fassent.
Mm-hmm.
Puis on ramène, là je me souviens plus du nom, là, mais l'espèce de sidekick de Red Skull là, dans le premier film, là. C'est joué par Toby Jones, mais son personnage m'échappe. On le ramène sous forme d'ordinateur.
Ouais,
aussi. Ça, j'ai trouvé ça un peu...
C'est parce que, clairement, c'est une affaire de temps, puis dans les comics, on sait que le temps avance
ouais, différemment. Ouais, mais c'est ça.
C'est, on essaie de
d'adapter
un peu l'histoire, parce que, pour vrai, c'est pas autant d'années qui se sont passées dans les comics entre la Première Guerre entre la Deuxième Guerre mondiale, puis aujourd'hui, c'est pas autant d'années là, qui se sont passées.
Non,
c'est pas mal moins d'années. Fait que,
mais tu sais, d'où les incohérences de, tu sais, je comprends, la technologie dans l'univers Marvel est comme à un autre niveau, là, tu sais, les chars ils parlent puis tout, puis là tu sais, ça commence à arriver
c'est quelque chose que Hydra pourrait faire, puis que c'est pas inaccurate, c'est vraiment, c'est quelque chose que Hydra pourrait faire, puis que dans les comics ils ont fait aussi, mais est-ce que c'est réaliste? Je sais pas, là.
Ouais, ben c'est ça. T'sais, c'est juste, ils se trouvent sur une base secrète aussi, que ça donne que c'était la place où Steve Rogers s'entraînait aussi. Là,
ouais, j'ai jamais retourné.
Non, c'est ça. mais tu sais, c'est ça. Il y a une base secrète avec un vieil ordinateur qui, là, finalement, est USB. Là. Ils ont acheté un plugin puis il est rendu USB. Mais non, mais tu sais, c'est... Moi, c'est toujours... c'est très... Puis c'est ce qui va pas avec la plupart des théories complotistes dans la vie, là, je trouve. C'est comme les sociétés secrètes, là, personne n'est bon pour garder un secret. Ça va finir par se savoir. Puis pourquoi est-ce que ça a pris autant de temps? Tu sais, pourquoi Romanov a jamais eu, mettons, une puce à l'oreille, quelque chose allait... qui pourrait avoir eu une infiltration. Pourquoi personne n'a jamais entendu parler de cette base-là qui garde justement le...
Ça aussi, c'est une...
Ça reste très léger, là, comme incohérence.
C'est une de... Pas mes déceptions du film, mais ils ont dû comme tone down aussi l'implication de Hydra dans le film, parce que dans les comics, mettons, là, Hydra, les branches là, sont plus lourdes que ça. Là. C'est la plus grosse compagnie pharmaceutique au monde. C'est, okay.
Fait que Shield, elle existe encore. T'sais, Hydra dans l'MCU est comme mort, on va dire, avec Red Skull.
Ouais, c'est ça. Mais c'est comme un... Ben, Hydra est justement plus tant secret que ça, mais Shield, c'est un front de Hydra, mais c'est juste une petite partie là, de toute la grosse machine. Là. Ils ont deux grosses compagnies énormes là, du style investissement et du style pharmaceutique. Là. Fait que vraiment, on a le côté plus super grosse corporation vilaine qu'on n'a pas dans le film parce que on apprend juste que c'est comme une petite partie de Shield, mais vraiment, là, si on parle de Hydra dans les comics, ils ont des tentacules partout, puis de tous les côtés, tous les bords, tous les côtés, puis chacun a ses fonctions. Puis Shield, c'est...
Tu coupes une tête, il y en a deux qui
poussent. C'est ça, un peu, oui, exactement. Mais Shield, c'est juste un front pour les opérations militaires ou secrètes ou d'espionnage de Hydra ou de surveillance. Fait que, tu sais... Mais je pense que s'il avait apporté ça dans le film, là, que Hydra contrôle tout, ben là, ça fait un peu... ça devient encore moins crédible. Fait qu'ils ont coupé cette partie-là, ce qui fait que ben c'est un petit peu plus crédible, mais justement, c'est quand même toujours pas 100% crédible dans le monde actuel. Ça. Mais dans les comics, je veux juste te dire que comme c'était... Hydra, c'est tout. Là.
Ouais, c'est ça.
C'est la pharmacie, c'est tout.
Tu sais, ben honnêtement, ça fait tellement longtemps que je ne les ai pas vus. Je sais même pas si on va réentendre parler de Hydra. Tu sais, oui, je veux dire, ils contrôlent le Shield, là, mais tu sais, je sais pas s'ils vont être les vilains principaux à un moment donné dans l'univers. Sauf peut-être... Ben, même Civil War, c'est pas tant eux les vilains. Là, c'est tout le monde et personne à la fois. Là. Mais c'est ça, tu sais... Effectivement, on a vraiment réduit l'importance de Hydra dans tout ça, ce qui va impacter vraiment Shield. Des mots à rajouter avant qu'on parte en pause?
Non.
On l'a bien apprécié, bien honnêtement. Là, c'est un des, en tout cas, moi, c'est un de mes bons films du MCU jusqu'à présent. J'ai quasiment hâte à Civil War, duquel je garde des mauvais souvenirs. Là. On verra.
Ah, pour vrai?
Ouais, je l'avais pas vraiment aimé. Bon. Mais bon, on va pouvoir y en parler bientôt. Ça s'en vient, Civil War. Mais bref, on s'en va en pause publicitaire et au retour, ben, on va octroyer nos fameux pop-corn de l'infini. Restez là. Vous êtes de retour au Popcorn de l'infini et c'est le temps d'octroyer donc nos popcorns à Captain America The Winter Soldier. David, on va y aller popcorn par popcorn.
Ouais,
on ne rappellera pas l'ensemble. Donc, vas-y, le premier popcorn.
On commence par le popcorn de l'espace qui est comme l'importance avec le MCU. Là, je pense qu'on peut s'entendre sur le fait que ce film-là est important pour le MCU, notamment pour avoir mis la table à Secret... Civil War. Introduit le Winter Soldier qui va être quand même Bucky, qui va être un personnage important là, du MCU à l'avenir.
Falcon aussi.
Oui, Falcon aussi qui va carrément devenir Captain America. Fait que ça a introduit pas mal de personnages importants.
Puis j'irais même, ça foreshadow aussi certains autres personnages. On mentionne pour la première fois Doctor Strange, ou en tout cas Stephen Strange. On mentionne quelqu'un de l'Égypte, un animateur TV host de l'Égypte ou je sais pas quoi, qui est probablement Moon Knight. Puis il y a même, en tout cas, au moment où...
Je pense pas qu'il était rendu à Moon Knight dans leur plan.
Il mentionne Someone from Egypt, là, ce qui est pas mal le seul super-héros, j'imagine, de l'Égypte, ce dude-là. Mais c'est au moment où Sitwell, il vend toute la salade de tout ça, puis ils sont comme, mais là, c'est qui que vous aviez ciblé? Puis il mentionne Bruce Banner, il mentionne Doctor Strange, puis ça, là, qui vont arriver vraiment longtemps. temps. Là. Moon ouais. Knight, c'est une série de quoi, 2023, là, je ne sais pas. Ça fait
2022, quand même, je ne sais pas quand.
Quasiment 10 ans après. Là. Puis, c'est ça, ça foreshadow. Bon, en tout cas, ça nous foreshadow comment Nick Fury passe son œil. Finalement, ouais. C'est moins sérieux que ce que ça a l'air dans ce film-là. Mais bref, oui, c'est ça. Puis ça va vraiment impacter, ben ça va tuer S.H.I.E.L.D. là, essentiellement.
Fait c'est que, ça.
Bon, ouais, des gros impacts. Bon. Il y a le popcorn.
La popcorn de la réalité. Est-ce que ce film-là est réaliste? Bon. Parce que...
Ouais. Ben, il est autant réaliste qu'une théorie du complot. C'est-à-dire qu'il passe, il part avec une base solide, puis c'est après ça, c'est les conclusions qu'on en tire. Que... Ben, tu sais, j'y donnerais, parce que je vais prendre le réalisme au sens large, puis dire qu'ils ont fait un effort pour que les scènes d'action semblent réalistes aussi. Tu sais, oui, il y a le réalisme du récit qu'on peut adhérer ou pas, sachant qu'il y a des précédents aux États-Unis, Watergate, tu l'as mentionné, ouais. Le Patriot Act, sachant que c'est facile de douter des institutions américaines encore aujourd'hui, tu sais, il y a ça qui est réaliste aussi, mais après ça, c'est ça, ça reste des petits détails ici et là qui ne ouais. sont pas, là, je pense que t'es d'accord.
Une des choses qui m'agace le plus, c'est comment Captain America a infiltré le S.H.I.E.L.D. si facilement pour son retour, là, il est juste...
Ouais.
Je pense qu'il y avait combien de gardes? 3,
genre. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais.
Puis après ça, il était comme, j'ai accès aux intercoms pour parler à tout le monde.
Ouais, c'est ça. Ou même affaire, tu sais, comment est-ce qu'ils trouvent le Secret Lab au New Jersey? Ou tu sais, ils vont dans un App Store pour checker les données. Tu sais, Apple Store, excuse. C'est ça, tu sais. Il y a des petites incohérences ici et là, mais mettons l'essence, je crois, qu'elle se veut, ouais. Même encore plus réaliste que d'autres, là, que même Iron Man et tout ça. Là. C'est sûr que Captain America, par nature aussi, il n'est pas surnaturel. Il n'est pas... c'est un everyday man, mais qui a juste plus de muscles.
C'est un super soldat.
c'est ça. Même si... je vais le mentionner, parce que sinon, je pense pas qu'on va avoir le temps de le mentionner. Même si dans la post-credit scene, on ajoute un peu de la magie-ish, parce qu'on présente Scarlet Witch et Quicksilver. Brièvement, ils vont arriver plus dans les Avengers, Avengers 2, mais c'est ça. Il y a un peu de magie, mais c'est dans la post-credit scene.
Au niveau du popcorn du pouvoir, fait que là, on y donne pour la réalité. Là.
Ouais, j'y donnerai.
Au niveau du popcorn du pouvoir, la qualité des scènes d'action et des effets spéciaux. Bon, là, c'est pas le film avec le plus d'effets spéciaux, mais quand il était là, il était poli.
Les vaisseaux dans les airs, ça reste quand même.
Mais il y avait du temps à mettre sur les effets spéciaux parce qu'il n'y en avait pas trop.
Ouais, c'est ça, effectivement. J'y donnerai moi aussi. Qualité. C'est juste effets spéciaux ou scène d'action?
Scène d'action et
les deux. Ne serait-ce que la scène de l'ascenseur qui est devenue iconique, je pense, dans les scènes Marvel.
Devenue aussi un mime.
Ouais, c'est un mime.
Au niveau du popcorn, de l'âme, de
matériel source.
Ouais, au niveau du comic accuracy, du matériel source, moi, je donnerais, parce que c'est carrément basé sur... C'est une adaptation claire là, des comics, puis c'est toutes des choses qui se sont passées. Tu sais, il y a même... un petit revers, un petit curveball au niveau de Pierce, mais sinon, ça reste très, très basé sur les comics. Fait que moi, je donnerais. Fait que là, présentement, il y a 4 popcorn sur 6.
Ah oui, c'est ça, c'est une belle séquence.
Il reste du popcorn de l'esprit. Est-ce qu'on a eu du fun à regarder? Ben, comme j'ai dit, moi, quand c'est fini, j'avais le goût de le regarder plus.
Ouais.
Fait que moi, je donnerais, je sais pas pour toi.
J'y donnerais. Je t'avoue que je sais pas à quel point j'y retournerais, par exemple.
C'est l'autre après.
Je
sais pas.
Ouais, c'est comme plus si c'est intemporel.
Ça, c'est plus si t'as eu du fun à le regarder. T'as-tu eu du fun?
Oui, celui-là, il est plus si j'ai eu du fun.
Ouais.
Oui. J'ai eu du fun. Mais c'est ça, encore une fois, je sais pas si je le regarderais encore. Ne serait-ce que parce que... Je sais pas s'il est encore il est intéressant au moment où il sort parce que il va altérer le reste, mais quand t'as la fin de l'histoire, on dirait que le milieu devient moins intéressant.
Ouais,
là, fait que je sais pas trop, puis c'est pas pour rien que tu l'as pas revisité puis que je l'ai pas nécessairement revisité souvent, même si je savais que c'était un des bons films.
Mais on peut sauter du Captain America 1 au 3 puis avoir un certain contexte.
Ouais,
tu sais un peu c'est qui Bucky.
Mais j'y donnerais quand même, là, mais c'est ça. Je sais pas si je vais le revisiter si souvent que ça.
OK. Ben, au niveau du popcorn du temps, justement, est-ce que c'est un film qui est intemporel? Est-ce qu'il va rester dans le temps?
Ben, c'est ça.
Il est intemporel,
dire oui, ne serait-ce que parce que les enjeux de 2014 sont encore présents, c'est même plus présent aujourd'hui qu'à l'époque. Toute la question de la cybersécurité ou la cybersurveillance, je pense que ça va être d'actualité quand même assez longtemps. Puis tu sais, Marvel...
Je dois garder un souvenir.
Ouais, ben, je vais en garder un souvenir. Ça, mais tu sais, je garde des bons souvenirs de films que je veux pas voir nécessairement. Mais tu sais. Ouais, c'est ça. Non, mais tu sais, je pense que la plupart des Marvel, des fois, essaient de faire des références au moment de leur sortie. Là, ils vont faire des jokes, mettons, dans Endgame ou je sais pas lequel, Thor, il joue à Fortnite ou des affaires de même. T'sais, ils ont tendance, une vilaine tendance, selon moi, à être très. Hey, on va faire des jokes de 2014. Puis, il n'y en a pas dans celui-là. En tout cas, j'en ai pas vu. Puis,
ça va être plus dans le futur, ça.
Ouais, c'est ça. Mais c'est bien. Mais tu sais, même les Iron Man aussi avaient tendance à le faire un petit peu. Ouais. Fait que lui, il le fait pas. Puis, à cause que ses thématiques principales sont. Je ne veux pas dire intemporel, mais vont être générationnels. Je pense que ça va nous suivre un petit moment. Puis à cause que leurs jokes, c'est plus des jokes de situation versus des jokes, des easter eggs ou en tout cas des jokes d'actualité, ben moi, je trouve qu'ils vieillent bien. Fait que j'y donne.
Bon, ben 6 popcorn. Fait que c'est un deuxième film à 6 popcorn.
Ben, il mérite. C'est pas vrai, même si c'est pas mon préféré non plus du MCU. Ben, tu sais, j'ai. Sur Letterboxd, j'ai mis 4 étoiles quand même, tu sais, ce qui est quand même considérable. Il est parmi. Il est dans le top 10 là, des films de super-héros MCU et hors MCU là, qu'on a vu jusqu'à présent. Fait que non, c'est vraiment. C'est une bonne vue. C'est ça. Moi, j'ai beaucoup aimé. Bon. Fait que voilà, c'est ce qui complète cet épisode-là. Prochain épisode, on fait un pas de côté.
Oui, puis Amazing Spider-Man 2, ouais. On s'en va plonger
finir
dans...
enfin cet univers-là qui a parti moyen puis qui là va s'effondrer et va revenir 10 ans plus tard.
C'est ça, exact. Je n'aurais pas pu mieux le décrire.
Donc voilà, on est pas mal à mi-chemin de cette saison 3. Là, donc merci d'avoir écouté cet épisode du Popcorn de l'Infini. On se retrouve dans 2 semaines pour un autre épisode sur Amazing Spider-Man 2. Merci.